Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, par une délicatesse de la Providence, cette fête de l'enfant prodigue de la retraite, c'est-à-dire le retour à la communion, où notre temps tombe en même temps que cette belle fête du Jeudi Saint, c'est-à-dire l'institution de la Sainte Eucharistie. Remercier le bon Dieu pour cette délicatesse et nous rappeler ce don extraordinaire que le bon Dieu nous a fait. C'est la seule religion, parce que c'est la vraie, qui a un Dieu aussi proche d'elle. Non seulement notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu et est mort pour nous sur la croix pour racheter nos péchés, mais il a voulu, même après nous avoir rachetés, il a voulu rester parmi nous. Et rester avec son corps, son sang, son âme, sa divinité. Le même corps qui a été cloué sur la croix. Le même corps qui est ressuscité d'entre les morts le vendredi saint. Et il a voulu rester parmi nous parce qu'il savait que nous serons laissés comme des agneaux au milieu des loups. Et que nous aurions à nous battre. Comme un soldat qui est abandonné, si vous voulez, sur la ligne de front un peu tout seul et qui a besoin d'une forte armure pour se protéger, d'armes offensives et d'armes défensives pour se protéger. Eh bien, cette arme offensive, cette arme défensive que le démon craint tant, c'est la Sainte Eucharistie. Ce sacrement extraordinaire qui contient non seulement la grâce, qui nous donne non seulement la grâce, mais qui contient l'auteur même de la grâce. Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de notre Sainte Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu pour pouvoir sauver nos péchés, Dieu seul peut effacer les péchés. Et vrai homme pour mourir sur la croix, parce que Dieu ne peut pas mourir, parce qu'il est éternel. Et donc la Sainte Eucharistie est peut-être la plus bel exemple de l'amour infini qu'a notre Seigneur Jésus-Christ pour ses enfants, y compris ses enfants pécheurs. Voilà pourquoi il donne à ses enfants non seulement le pouvoir, il donne à ses prêtres non seulement le pouvoir de pardonner les péchés au nom du bon Dieu, mais aussi de nourrir ses propres enfants avec ce même corps, ce même sang, cette même âme, cette même divinité qui ont été exposées sur le calvaire. Et donc, mes bien chers frères, mes bien chers amis, plus que jamais aujourd'hui, il nous faut comprendre et méditer sur la grandeur de ce sacrement. Surtout aujourd'hui, pratiquement, presque, on peut dire, il a pratiquement disparu. Combien de messes sont encore valides dans le monde entier aujourd'hui? Heureusement qu'on ne sait pas, parce que je pense que si on savait le nombre exact de messes encore valides dans le monde aujourd'hui, je crois qu'on serait complètement découragé. Et pourquoi le bon Dieu a-t-il permis que vous puissiez assister à une de ces messes valides? Puisque malgré mon indignité, je suis prêtre et que je célèbre la messe de toujours, la messe catholique traditionnelle. Pourquoi est-ce que le bon Dieu vous a donné à vous cette grâce d'avoir la messe? Non pas à cause de vos mérites, non pas à cause de mes mérites, parce que le bon Dieu nous aime. D'un amour tout particulier, on peut poser la question, pourquoi est-ce que le bon Dieu m'aime d'un amour si particulier? Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire pour que le bon Dieu m'aime à ce degré? Là est le mystère. Les dons du bon Dieu sont gratuits. La grâce du bon Dieu est gratuite. Mais n'oublions pas une chose, mes bien chers frères, c'est que puisque le bon Dieu nous a donné cette grâce de la fidélité, parce que si nous sommes restés fidèles à la foi catholique, ce n'est pas à cause de nos propres forces, c'est parce que Dieu nous a donné cette grâce. Et peut-être que le bon Dieu, s'il nous avait donné cette même grâce à notre voisin serait bien plus saint que nous. Donc puisque le bon Dieu nous a donné cette grâce extraordinaire, puisque nous avons beaucoup plus reçu, eh bien, chers frères, pensons à rendre, il faut donner. Pensez à tous les catholiques qui, aujourd'hui, pour les rares qui vont encore, assistent aux offices dans l'église de Vatican II, et qui croient que notre Seigneur Jésus-Christ descend sur l'autel et qu'il reçoit un bout de pain. parce que le démon a réussi à détruire complètement l'écrin qui tient, le double écrin en quelque sorte, qui protège la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe d'un côté et le sacerdoce de l'autre. N'oublions pas que plus nous avons reçu, plus nous devons rendre. Et le bon Dieu, le jour de notre jugement, aura le droit de nous demander beaucoup plus, et beaucoup plus exigeant avec nous, précisément parce que nous avons plus reçu, moi en tant que poète et vous en tant que fidèle. Alors, eh bien, chers frères, puisqu'il est maintenant temps, pour ceux qui ont fait la retraite, après ces jours sans communion, les premiers jours de la retraite, on ne communie pas par tradition, voulue par Saint Ignace, puisqu'il maintenant il est temps de se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, réalisons ce qui va se passer en nous. Vous allez, mes bien chers frères, renouveler tout simplement le mystère de l'incarnation, rien que ça. De même que la très sainte Vierge Marie, lorsqu'elle a donné son fiat, qu'il en soit fait en moi selon votre parole, quand elle a répondu à la proposition de l'ange de devenir la mère de Dieu, lorsqu'elle a donné son fiat, son acquiescement à ce mystère extraordinaire, alors est venu, tout petit, dans son sein, l'enfant Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa divinité. Dieu s'est incarné dans le sein très pur de la très sainte Vierge Marie. Eh bien, c'est la même chose qui va se passer en vous. Dieu, enfin, le même Dieu, va aussi venir d'une certaine façon s'unir à notre humanité en nous, par la Sainte Eucharistie. Alors ne nous décourageons jamais. C'est pour cela que la tradition veut qu'en cette journée de l'enfant prodigue, qui cette année tombe le jour du Jeudi Saint, eh bien, qu'en cette journée, nous expliquions aussi cette magnifique parabole que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses disciples. La parabole de l'enfant prodigue, qui est notre histoire, l'histoire de chacun d'entre nous. Cet homme, ce père de famille, qui avait deux enfants, et puis l'un des deux, malheureusement, a mal tourné. Il a été contaminé par les idées laïques, par les idées républicaines, par les idées démocrates d'aujourd'hui. Il a été contaminé par le poison de la liberté, le poison de l'égalité, le poison de la fraternité. Il va voir son père et lui dit « Donnez-moi la part de mon héritage. Je veux ma liberté, je veux quitter la maison, quitter le toit maternel, le toit paternel. » Et il s'en va. Il part dans un pays lointain, dit l'Évangile. Et il part, il va vivre comme les gens du monde, dans lesquels il veut vivre maintenant. Il va abandonner sa foi, abandonner la charité, abandonner l'espérance, abandonner les vertus théologales. Et au bout d'un certain temps, l'argent a été dépensé. Plus d'argent, plus d'amis. Alors il fut obligé, nous dit l'Évangile, de louer ses bras dans une ferme pour nourrir les cochons. Pour un juif, c'était l'humiliation suprême, parce qu'il considère le cochon comme un animal impur. Et il aurait voulu manger la nourriture qu'on donnait aux cochons, même cette nourriture, il n'est pas pour lui toucher. Alors le bon Dieu, qui aime ses enfants, même ceux qui tombent, le bon Dieu lui a envoyé une grâce actuelle. Il a vu la boue dans laquelle ces cochons devaient jouer, et il s'est dit, mon âme doit être à peu près la couleur de cette boue. Alors il s'est dit, avant moi j'avais un toit sur ma tête, avant moi j'avais quelque chose à manger, maintenant j'ai plus rien, j'ai tout perdu. Je sais ce que je vais faire, je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le Père, contre le ciel et contre vous. Acceptez-moi de nouveau à la maison comme le dernier de vos serviteurs. Et c'est ce qu'il fit, il reprit le chemin qui l'a mené à la maison, une longue route. Et il se répétait cette prière qu'il connaissait par cœur, il la répétait sans cesse dans son âme, dans son esprit, dans son intelligence. Et le Père ne vivait plus, attendait le retour de son Fils. Et tous les jours, tous les matins, tous les soirs, il montait sur la terrasse de sa maison pour voir si son Fils revenait. Et il priait pour le retour de son Fils. Et un jour, il vit au loin un petit point noir qui bougeait, et il sut parce qu'il avait un grand cœur de Père. Ce point noir au bout là, qui bouge, c'est mon fils qui revient. Alors il lâcha tout. Il descendit l'escalier et se précipita sur le chemin pour accueillir son fils qui revenait. Lequel fils n'était pas particulièrement fier de ce qu'il avait fait. Alors le fils tomba à genoux au pied de son père et lui dit cette phrase qu'il connaissait par cœur. Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché contre le ciel et contre vous. Et acceptez-moi de nouveau dans la maison comme le dernier de vos serviteurs. Qu'est-ce que fait le père? Une longue leçon, le catéchisme, pas du tout. Il le relève, l'embrasse, le serre contre lui et l'accueille de nouveau comme le fils de la maison. En plus, il lui rend la autre famille, le revêt d'une la robe d'innocence de nouveau. Il lui redonne la robe d'innocence alors qu'il l'avait perdue. Il organise un grand banquet parce que son fils était perdu, disait-il, et mon fils s'est retrouvé. Ça, c'est notre histoire à nous. Nous aussi, peut-être, dans le passé, Dieu connaît notre vie passée, nous avons tout abandonné, nous sommes allés vivre avec les cochons. Et le bon Dieu aurait pu nous laisser dans notre misère, dans notre fange, dans notre boue. Il aurait pu très bien le faire. Il a eu pitié de nous. Il nous a envoyé des grâces toutes particulières, chacun d'entre nous, nous connaissons nos propres histoires. Il nous a envoyé des grâces actuelles particulières pour nous rappeler, nous ramener. Et nous ramener à son sacré cœur. Nous ramener pour que nous puissions de nouveau ouvrir notre âme à la grâce par le sacrement de pénitence et maintenant recevoir ce magnifique sacrement de la Sainte Eucharistie. Alors nous allons demander, mes bien chers frères, à celle qui a reçu pour la première fois notre Seigneur en son sein, notre Sainte Vierge Marie, nous allons lui demander justement cette grâce extraordinaire d'être fidèle cette fois-ci. L'enfant prodigue qui est revenu après avoir tout abandonné, après avoir tout détruit, tout brûlé, il est devenu fidèle. Il fut fidèle de nouveau à la foi de son enfance qu'il avait retrouvée, fidèle à l'espérance de son enfance qu'il avait retrouvée et fidèle surtout à la vertu de charité. Et donc nous demanderons, mes bien chers frères, cette grâce de la fidélité. Fidélité à la foi catholique, fidélité à l'enseignement de l'Église, fidélité au magistère de l'Église. Et alors qu'autour de nous, tout s'écroule, voyons par nous-mêmes, avec nos yeux effarés, nous voyons les destructions, la destruction des âmes de millions et de millions d'âmes dans le monde entier. Nous voyons Bergoglio à Rome qui détruit. Vous savez sans doute qu'il y a quelques jours, Bergoglio a encore eu le culot de nier cette fois-ci la co-rédemption de notre Sainte Vierge Marie. En disant publiquement que Marie n'est pas co-rédemptrice. Alors si la Très Sainte Vierge Marie n'est pas co-rédemptrice, qu'est-ce qu'elle fait au pied de la croix alors? Si Marie n'est pas co-rédemptrice, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a dit à sa mère, « Mère, voici votre fils. » Et pourquoi a-t-il dit à Saint Jean, « Fils, voici votre mère. » Bien sûr qu'elle est co-rédemptrice. Parce qu'elle a donné à son fils son humanité souffrante, qui vient de notre Sainte Vierge Marie. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ vient de Notre-Dame. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie qu'elle nous donne cette grâce de la fidélité. Cette fois-ci que nous n'abandonnions pas notre Seigneur Jésus-Christ, puisque nous avons eu la grâce de le retrouver, que nous soyons rendus fidèles. Fidèles à ses grâces, afin un jour de pouvoir tous nous retrouver avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec sa très sainte mère, au paradis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.